Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Sholem Aleichem, 1859-1916. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui écrivait en yiddish des histoires amusantes pour les petits et les grands. De celui qui a fui les pogroms russes pour New York. De celui qui s'est choisi comme pseudonyme une formule de salutation. Sur les photos, ce qui saute aux yeux, c'est que Sholem Aleichem a une bonne tête. Visage ouvert, regard malicieux et toujours comme un sourire qui flotte. On dirait qu'il vient de dire une blague ou qu'il s'apprête à en raconter une. Souvent sans chapeau, ses cheveux longs sont en bataille comme s'il venait d'y passer ses doigts. Ses petites lunettes ne le quittent pas et même quand il pose en écrivain, à sa table en train de lire ou d'écrire, il semble toujours chercher la complicité du photographe. Sur une photo posée, qui réunit plusieurs auteurs juifs endimanchés, autour d'une barque, il tient une rame à la main et son chapeau est en arrière, quand les autres dignement s'appuient sur leur canne. Sur une autre, il pose en famille, un enfant sur les genoux, et on voit alors qu'il peut aussi avoir l'air soucieux. Cela fera 100 ans qu'il est mort cette année, et dans son testament, il a voulu que cette date soit joyeuse et festive, alors fin tragique ou pas, amusons-nous avec Sholem Aleichem, le Luftmensch, un documentaire de Mathilde Wagmann, réalisé par Ghislaine David.
C'est une revue qui s'appelle Der Neue Journal, la nouvelle revue, publiée à Paris pendant plusieurs mois en 1913 et 14. Et ici, dans le numéro daté le 26 décembre 1913, Pariser Organisatie Poelation, Montag dem 29. Dezember wird vorkommen in großen Saal von Palais des Fêtes a grandioser jiddischer literarischer Abend, wo der beliebter jiddischer Volksschreiber Sholem Aleichem wird vorlesen seine neueste, mersten Teil noch nicht gedruckte Werk. C'est du yiddish un petit peu germanisé.
Et ça veut dire quoi?
L'organisation parisienne de Poelation, les sionistes socialistes, lundi le 29 décembre 1913, il y aura dans la grande salle du Palais des Fêtes une grande soirée littéraire juive où Sholem Aleichem, l'écrivain aimé, apprécié, l'écrivain du peuple, le Volksschreiber, lira ses œuvres récentes. Le début est à 8h30 le soir. On dit que la salle était pleine et il s'est mis sur une chaise au milieu de la salle et donc il a fait sa lecture ainsi pour que tout le monde puisse l'entendre. Et le journaliste l'appelle Der Größer Dichter, même le grand écrivain, le grand poète. Donc Sholem Aleichem était une vraie célébrité, un vrai star de l'époque, une sorte d'idole.
La première chose, enfin la dernière chose, c'est que lorsqu'il meurt à New York en mai 1916, ses funérailles sont suivies par plusieurs centaines de milliers de personnes. En un cortège, j'ai vu le tracé du cortège dans un livre biographique sur Sholem Aleichem, qui parle du Bronx, qui descend tout Manhattan, pour aller jusqu'au cimetière de Brooklyn où il est enterré. C'est impressionnant. Et les photos du cortège, c'est des grands rideaux noirs à l'entrée de sa maison, des stations dans un certain nombre de lieux qui ont été importants dans sa vie ou alors qui sont des lieux officiels. Enfin, c'est fou. Mais aussi, quand il se produit dans une salle à Paris, notamment, il y a une émeute parce qu'il n'y a pas assez de place dans la salle, mais une grande salle. Partout où il va, il est acclamé par des foules de juifs qui ont lu ses œuvres.
Sholem Aleichem, le Luftmensch.
J'ai connu le nom avant de connaître l'œuvre.
Jean-Claude Grimbert.
Bon alors le nom, c'est ça a quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il avait un nom, Sholem Rabinovitch. Et il écrivait en hébreu. Et donc, quand il a choisi le yiddish, il a voulu trouver un pseudonyme, populaire. Écrire en yiddish, c'était se séparer de l'intelligentsia, qui, elle, s'exprimait en hébreu à l'époque, et essayer d'être lu par ceux, justement, qui n'étaient pas des littéraires, qui ne lisaient pas l'hébreu, l'hébreu étant la langue religieuse, la langue sacrée, et leur langue commune, c'était le yiddish. Donc, il a choisi, avec d'autres, d'écrire en yiddish. Et comme pseudonyme, il a choisi presque « Bonjour, comment ça va ?» Écrire comme on tend la main. Voilà. En fait, « Shalem Aleichem », c'est tendre la main.
Shalem Aleichem, c'est la formule que l'on dit quand on dit bonjour à quelqu'un, notamment quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on ne connaît pas, un petit peu comme « how do you do » en anglais.
Gilles Rosier.
Ça veut dire « la paix soit sur vous », comme en arabe « salam alaikum », mais ça veut dire « comment allez-vous ». Et c'est extrêmement populaire, extrêmement idiomatique, c'est-à-dire tout le monde est susceptible de se dire « shalom aleichem ». Donc moi j'y entends une manière de dire, voilà, moi je suis l'écrivain qui parle à tout le monde, et je suis l'écrivain à qui on peut dire, quand on me voit, shalom aleichem, et auquel je répondrai, aleichem shalom. Ce n'est pas l'écrivain qui veut rester dans sa tour d'ivoire.
Signer Sholem Rabinovitch aurait été sans doute trop solennel, trop état civil, en quelque sorte. Sholem Aleichem, c'est aussi se situer, finalement, à mi-chemin entre le monde traditionnel, parce qu'il y avait, théoriquement...
Jacques Mandelbaum.
Il n'y avait pas de nom propre. Les appellations, c'était machin, enfin, machin, fils de machin, c'est pas, voilà, c'était autre chose, quoi. Et voilà, il prend une locution qui est le plus susceptible de faire de lui quelqu'un qui est dans la communauté, qui est au niveau de son lectorat. Sholem Aleichem devient tout à coup un nom propre, puisque Sholem, qui veut dire paix, est également un prénom en yiddish. Donc littéralement, Sholem Aleichem devient Sholem et sur vous. Je suis sur vous. Donc voilà, on a déjà tout un esprit là dans le choix de cette expression comme pseudonyme, se déploie déjà tout un réseau de réminiscences, la référence à l'hébreu, à l'univers traditionnel, la salutation amicale, le rôle de l'écrivain qui est dépositaire de l'être collectif du peuple. Et c'est pas anodin, parce que c'est justement à partir de lui que les intellectuels juifs, qui étaient jusqu'alors extrêmement éloignés du peuple, extrêmement éloignés d'une langue yiddish qui a longtemps été appelée par eux le jargon, c'était quelque chose dont on avait honte, ben voilà, tout à coup, cette décision, c'est aussi dire on va utiliser la langue qu'on utilise et on va en être fier.
Il est né donc dans une petite ville en Ukraine en 1859. Et la ville s'appelait Pereyaslav, mais il a passé son enfance dans un endroit encore plus petit, et une bourgade appelée Voronkov.
Yitzhak Niborski.
Sa famille, c'était une famille pas riche, mais à l'époque... disons, pour ce qui était le niveau économique des bourgades juives d'Ukraine, qui était très bas, son père pouvait passer par un homme aisé et cultivé, bien sûr, pieux et pratiquant. Il n'y avait presque pas à l'époque un judaïsme pas religieux et pas pratiquant, mais dans cette catégorie, c'était un esprit plutôt ouvert, et cette ouverture se traduisait par la lecture un peu de la nouvelle littérature en hébreu qu'on écrivait à l'époque. Alors le petit Sholem Rabinovitch, il a eu une éducation, bien sûr, traditionnelle, avec tous les éléments religieux. Bon, il a perdu sa mère lorsqu'il était enfant encore, son père s'est remarié, et les enfants ont vécu pendant une certaine période avec les grands-parents. Bref, il a connu différentes situations économiques, mais n'empêche qu'il est allé au lycée russe dans la ville de Pereyaslav, et qu'il a eu donc une formation complète aussi en langue russe, et ça, c'est un signe d'ouverture et de modernité à l'époque des interdictions dans la Russie tsariste. Les Juifs subissaient beaucoup de discriminations et de limitations, et ils n'étaient pas les bienvenus dans les lycées, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sholem Aleichem, comme beaucoup d'écrivains de son temps, avait le choix de sa langue littéraire. Il était capable d'écrire en russe, en hébreu et en yiddish. Et d'ailleurs, il l'a fait. Il a écrit en russe et en hébreu. Et il a commencé par écrire en russe et en hébreu parce que, à son époque, il était inimaginable de choisir le yiddish comme langue de culture, comme langue littéraire. Et à un moment donné, il est tombé sur un journal de Saint-Pétersbourg qui publiait en yiddish. Et là, il s'est dit, pour toucher mon public, pour ne pas toucher uniquement les intellectuels de Moscou, les intellectuels juifs ou non-juifs, d'ailleurs, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, etc. C'est en yiddish qu'il faut écrire. Ça a été un petit peu la même démarche du mouvement socialiste révolutionnaire, le Bund, qui a choisi le yiddish comme langue de diffusion, en disant « c'est la seule manière de toucher le peuple ». Sachant que le peuple, chez les juifs, c'est un peuple infiniment plus alphabétisé que l'équivalent chez les Russes. Il y a un énorme analphabétisme dans la population des paysans russes. Chez les Juifs, là où dans d'autres cultures on apprend à labourer son champ ou à utiliser une varlope, et bien chez les Juifs on apprend à lire très tôt. Donc en fait les hommes en général savent tous lire, une partie des femmes également. Donc toucher le lectorat en yiddish, c'est possible.
Il a tiré vraiment à son profit et au profit de la littérature yiddish la souplesse de cette langue. C'est-à-dire que sa langue jouait sans arrêt à traverser tous les niveaux, à la fois linguistiques, mais également culturels, que transporte cette langue. C'est-à-dire qu'on passait dans une même phrase, on passe dans une même phrase, d'une référence biblique ancrée dans la tradition ancienne du judaïsme, à un proverbe totalement trivial de russe. C'est sans arrêt ça.
Le yiddish est une langue en elle-même bilingue parce qu'elle contient non seulement des couches ou des composantes plutôt romanes, slaves, allemandes bien sûr, très importantes, et hébraïques, mais en plus, dans le yiddish, il y a une niche où l'hébreu vit une existence propre, une existence qu'il n'a pas en hébreu, qu'il a en yiddish. Oui. Et les héros de Sholem Aleichem, pour la plupart, ils combinent d'une manière indescriptible, subtile, compliquée, à chaque fois différente, leur parler yiddish, disons, commun, et ces trésors subjacents d'éléments hébreux qui font et ne font pas partie du yiddish. Et Sholem Aleichem fait, par exemple, que Tevye confonde, il le fait intentionnellement, lui, il sait de quoi il y retourne, qu'il confonde, qu'il mélange les citations, les versets de la Bible ou les formules de la prière ou certaines expressions talmudiques habitent dans la tête du juif qui parle yiddish. Et c'est là qu'il est un virtuose.
Tevye le laitier, c'est quelqu'un qui, en permanence, quand il s'adresse à son interlocuteur ou quand il s'adresse à Dieu, il cite des versets bibliques. Mais il les tord à chaque fois. C'est-à-dire qu'il les cite de mémoire, et comme c'est un homme très humble, une éducation religieuse finalement pas très poussée, eh bien, il les interprète à sa manière, quoi. Et on peut en faire une lecture simple, un petit peu comme le commentaire de la Bible. Vous savez, dans la tradition hébraïque, on dit qu'il y a quatre niveaux d'interprétation de la Bible, quatre niveaux qui vont de plus en plus compliqués jusqu'au niveau mystique. Et chez Sholem Aleichem, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez lire un texte que vous comprenez, et puis quand vous rentrez un petit peu dans les détails, Vous rentrez dans les jeux de mots, vous rentrez dans les allusions, vous rentrez dans les, l'intertextualité, le renvoi à d'autres expressions, notamment du vocabulaire religieux. Et c'est tout le jeu de Sholem Aleichem de faire une référence à la tradition et puis de l'ancrer dans la tradition populaire.
Par exemple, il y a un moment où Thévier veut faire la prière du soir, et, mais il est avec sa charrette et son cheval, il rentre d'une journée épuisante de travail parce qu'il est porteur de bois, mais il veut arrêter pour prier. Cette prière se fait debout. Mais c'est le moment que son cheval trouve pour s'effaroucher et pour se mettre à courir dans la forêt. Donc il n'a pas le choix, il doit courir derrière lui en essayant d'attraper les rennes. Et en même temps, il est déjà engagé dans la prière, alors il continue sa prière. Et chaque mot de la prière, chaque phrase de la prière suscite dans sa tête, selon ce qu'il raconte, une réflexion qui est en même temps une prolongation de la prière et une expression de protestation et d'amertume à cause de la situation qui, malgré toutes les prières, ne s'améliore pas.
La vie de Sholem Rabinovitch est absolument rocambolesque. Il est amené, pour gagner sa vie, à devenir le précepteur de la fille d'un homme très riche. Il tombe amoureux de la fille qui s'appelait Olga. Olga tombe amoureuse de lui et le père ne voit pas du tout d'un bon œil que sa fille épouse une espèce de va-nu-pied, certes extrêmement érudit, mais va-nu-pied quand même. Donc il renvoie le précepteur. Mais l'amour entre Olga et Sholem perdure, puisqu'ils vont finir par se marier. Alors, pendant ce laps de temps, il se fait embaucher comme rabbin, rabbin officiel, hein, rabbin appointé par l'État. En fait. Mais en même temps, c'est un pont entre les Juifs et la culture russe aussi. Et puis ensuite, il épouse donc Olga, son beau-père meurt, et il se retrouve à la tête d'une fortune. Et cette fortune, il va faire de très mauvaises affaires en bourse et il va la perdre. Évidemment, dans son œuvre, on retrouve ça, puisque l'histoire de Menachem Mendel qui fait des très mauvaises affaires à la bourse de Kiev, c'est aussi l'histoire de Sholem Aleichem. Ensuite, il crée une revue en yiddish, dit Volksbibliothek, Yiddish Volksbibliothek, c'est-à-dire la bibliothèque populaire juive. Il essaye de promouvoir aussi des écrivains qui écrivent dans cette langue. Il y passera aussi une partie de la fortune de son beau-père à publier cette revue. Et ensuite arrive le début du XXe siècle, la vague de pogroms dans l'Empire russe. Et là, Sholem Aleichem quitte la région de Kiev. Et il vient en Europe occidentale, puis il part aux États-Unis. Il revient des États-Unis, il s'installe, c'est parce que sa famille était restée à Genève pendant qu'il était aux États-Unis, il revient en Europe. Puis il repart aux États-Unis juste avant la guerre de 14 et il meurt en 1916, donc aux États-Unis.
C'était une époque où la presse prend un essor important, et notamment aussi parce que les voies de communication par la multiplication des voies ferroviaires, enfin d'ailleurs qui est un thème qui va beaucoup apparaître dans les textes de Sholem Aleichem, où il y aura des contes, des récits qui se passent justement dans ces trains où se rencontrent des juifs plus orthodoxes, plus assimilés. Et la presse va être distribuée dans tous ces villages et largement lue, commentée dans des petits groupes. C'est vraiment le monde, enfin, tous ces bouleversements de la société juive qui vont venir à travers la presse dans tous ces lieux très dispersés qui vont donner envie aussi à beaucoup de jeunes d'écrire et de s'agréger à ce mouvement d'émancipation et puis d'utopie politique. Autour de la langue yiddish.
On raconte que quand il est arrivé aux États-Unis, il fournissait à la ligne les quotidiens de New York pour pouvoir vivre. Bon, c'est un écrivain qui n'avait pas de difficulté à se faire publier parce qu'il était extrêmement populaire. Donc, et c'est aussi enfin, cette espèce d'errance entre l'Est et l'Ouest, ça lui a été possible parce que d'abord le yiddish est une littérature monde. Vous avez des journaux yiddish à la fois en Europe orientale, aux États-Unis, même en Europe occidentale. Donc partout où il est, il peut envoyer des textes ou apporter des textes à la rédaction d'un journal, se faire publier et toucher des honoraires.
De Menachem Mendel à Sholem Aleichem. Salut respectueux à l'ami très cher, etc., etc., notre maître le sueur, Sholem Aleichem, que sa lumière brille. Primo, je prends la plume pour vous informer que je suis, grâce à Dieu, en pleine vie et santé. Plaise à Dieu que nous n'entendions jamais l'un de l'autre que d'excellentes nouvelles de bonheur, salut et réconfort. Amen. Secondo, sachez que je me range parmi vos plus sincères amis. Croyez-moi, je me contenterai bien de la moitié de ce que je vous souhaite. Pourquoi, demanderez-vous ? Pour vos feuilletons. Je vous donne ma parole que vous avez réellement fait mes délices, et si je vous connaissais, je vous embrasserais. En fait, pour ce qui est de vous connaître, je vous connais, mais je n'aurais pas l'audace de m'avancer vers vous en disant « Menachem Mendel, c'est moi ». C'est pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous écrive tout dans une lettre, tant j'ai de choses à vous dire. Mais d'abord, je voudrais vous poser quelques questions. Il faut que vous m'éclairiez, pas moyen d'y rien comprendre. Que vous me connaissiez si bien, soit. Il n'y a là rien d'étonnant. Il y a déjà plusieurs années que vous me voyez presque chaque jour rôder autour de la bourse. Stupéfiant, à chacune de nos rencontres, j'ai l'impression que moi, je vous vois et vous pas. Pourtant, à la fin, vous me percez à jour. Preuve sans doute que les lunettes sont bien un moyen adéquat. Mais broutille que cela. Ce qui m'étonne tout de bon, c'est que vous puissiez voir si clairement en elle. Ma vertueuse compagne, Dame Shine Scheindel, qu'elle vive longtemps. D'où vient que vous sachiez ce qui se mijote chez nous à Kasrilevke, et qui vous a parlé de ma belle-mère et de sa science? Mais ce n'est pas là ce qui me fait vous écrire. J'ai à discuter avec vous d'un sujet très important. Je voudrais, voyez-vous, vous demander conseil. Dites-moi, cher Sholem Aleichem, que faire?
Die Stadt von den kleinen Menschen, wo sich vier durch ein rein, Freund Leser, gefind sich Punkt in der Mitte von einem gebenchten Tchum, wo man da weggesetzt jeden Kopf auf Kopf wie Hering in einer Fessel und angesagt, sie sollen sich fruchtbaren und mehren. Und der Name von der Dosiker berühmter Stadt ist Kasrilevke. Und c'est une bourgade fictive, il a inventé un endroit appelé Kasrilevke, très petit, isolé, loin du monde. Et il raconte le premier cycle d'histoire de Kasrilevke, parce qu'il y en a eu trois, s'appelle « Les petits gens avec des petites aspirations ». Donc, en principe, ça devrait être l'histoire d'une bourgade très arriérée, très isolée, et figée dans son primitivisme, mais ce n'est pas vrai. Et c'est tout de même un monde juif où les idées nouvelles commencent à arriver, où la presse commence à arriver avec ses nouvelles, même si ce n'est pas encore la presse yiddish, c'est la presse en hébreu qui l'a précédée et qui était lisée par les quelques instruits, les quelques intellectuels de la bourgade. Et là, il y a l'humour d'une évolution. Donc, on va accompagner l'évolution de la société des provinces juives sur un bon bout des parcours.
C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un, qui, je ne sais pas, pour comparer avec Balzac, qui avait vraiment à l'esprit de composer une sorte de comédie humaine, une espèce de cohérence comme ça. Et Kasrilevke, c'était ça, c'était l'archétype de... à la fois du Shtetl historique, hein, dans son côté extrêmement confiné, fermé sur lui-même, mais en cours, au cours du temps, Sholem Aleichem va aussi assimiler cette ville à des métropoles plus grandes. Il va aborder, à travers la description de la ville qui change à travers le temps, l'ouverture justement sur l'extérieur, le devenir du Shtetl en bourgade plus grande, plus ouverte aux forces du progrès. Et malheureusement, pour constater cette impossibilité, finalement.
La bourgade imaginaire de Kastrilev, qui est le théâtre de beaucoup de ses nouvelles, c'est aussi la bourgade dans laquelle il est né. Yehupetz, qui est l'équivalent littéraire de Kiev, c'est la ville dans laquelle il a résidé. Il a des nouvelles qui se passent également sur la Riviera italienne. Il a été en villégiature là-bas. Donc en fait, il décrit une Europe et une Amérique. Il a eu un statut financier quand même relativement enviable à un certain moment, quoique il a aussi été pauvre. Donc, il est capable de décrire toutes sortes de situations dans lesquelles il a aussi vécu.
Kastrilevka, il y a un élément hébraïque dans ce mot, et il y a un élément slave, un suffixe slave. L'élément hébraïque originel, c'est Katriel, qui se transforme en yiddish, parce qu'il y a une manière yiddish de prononcer l'hébreu, qui est différente, voilà, donc c'est d'ores et déjà compliqué. Donc Katriel devient Kastril, et il y a le suffixe vka qui désigne généralement des villes en Russie, et qui, énoncé en yiddish, se transforme en fke, d'où le Kastrilevka. À cette complexité linguistique s'ajoute une utilisation antiphrastique de Sholem Alechem, qui prend Kastril, Katriel étant le nom d'un ange biblique, qui veut dire la couronne de Dieu, et de cette couronne de Dieu, on pourrait mettre un tiret et rajouter ville, imaginons un village qui s'appelle Couronne de Dieu Ville, qui est un village de miséreux et de crève la faim.
Bon.
Connaissez-vous le nec plus ultra en matière de transport? C'est le train de savate. Les gens de Boopoli ont baptisé ainsi le tortillard qui dessert toute une série de bourgades. Boopolier, Eysin, Teplik, Nemirov, Katchevaté et autres lieux bénis qu'au grand jamais le pied d'Adam ne foula. Les habitants de Boopolier, réputés à la ronde pour leurs bons mots, ne laissent pas de s'enthousiasmer sur les multiples vertus du train savate. Primo, disent-ils, n'ayez aucune crainte de vous mettre en retard, quel que soit le moment où vous arrivez, vous l'attrapez. Secondo, n'est-ce pas une chose appréciable que d'obtenir une place sans devoir l'arracher de haute lutte? Vous pouvez passer la ligne entière en tête à tête avec vous-même, allongé comme un prince et rassasié de sommeil toutes les faces de votre corps. Cela est la pure vérité. Voici environ 3 semaines que je parcours la région en train savate et que je demeure sur place. Une sorte de prodige. Ne croyez pas cependant que j'ai à m'en plaindre, j'en suis au contraire ravi. Car j'observe ici tant de belles choses. J'entends un si grand nombre d'histoires et de récits que je me demande s'il me sera possible de tout noter dans mon calepin.
La matrice de la culture yiddish, c'est vraiment la petite bourgade juive. Quand on dit petite bourgade juive, il faut comprendre que en Europe orientale, les juifs étaient assignés à résidence dans l'Empire russe, donc il y avait un fort pourcentage de la population juive en Ukraine, dans les pays baltes, etc. Et donc la bourgade juive, c'est souvent une bourgade dans laquelle il y a une majorité juive, ou une très forte minorité, entre 30 et 70% de la population, où il y avait des villes moyennes dans lesquelles il y avait, Berditchev, je crois, il y avait 70% de juifs. C'est vraiment la matrice de la culture yiddish. Mais cette matrice-là, avec l'industrialisation, avec l'exode rural, avec la libéralisation pour la vie des juifs aussi, petit à petit, elle tend à disparaître et à ce moment-là, les juifs affluent vers les grandes villes. Et Sholem Alechem raconte aussi ce passage et décrit aussi la vicissitude de la vie des juifs, parce qu'il y a, dans l'Empire russe, il y a un fort antisémitisme. À un moment donné, il y a des pogroms, mais avant les pogroms, il y avait des numerus clausus, il y avait des interdictions de séjour dans certaines villes, dans certains endroits. Il y avait des expulsions aussi dans Tevil-Létier, dans Le Violon sur le Toit. À la fin, la famille est obligée de quitter sa bourgade d'Ukraine, parce qu'il y a un oukaz du tsar qui a dit, dans cette bourgade, les juifs n'ont plus le droit d'habiter. Il décrit tout ça. Mais il le décrit de manière toujours toujours extrêmement satirique. Les héros sont toujours très attendrissants et en même temps, ils ont le chic de vous raconter toute leur misère avec le sourire d'une certaine manière. Ou alors c'est le sourire de l'écrivain qui fait que cette misère finit par être en littérature extrêmement plaisante.
On se situe à un moment historique de mutation extraordinaire pour le peuple juif, qui est à la fois le début de la sécularisation, donc la perte des anciens repères, la société environnante qui elle-même est pleine de soubresauts, l'apparition du socialisme. Tout ça fait que le peuple, les communautés juives d'Europe orientale se trouvent soumises à une mutation auquel elles ne vont pas pouvoir répondre pour une raison qui est simple, c'est-à-dire que les espoirs qui sont mis dans l'abandon des schémas anciens et dont l'adoption, par exemple, d'utopie révolutionnaire ou d'intégration dans les sociétés environnantes, vont, dans cette partie de l'Europe, être cruellement stoppées par l'antisémitisme et par les pogroms. Ce qui fait que les communautés juives se trouvent au milieu de rien.
Bon, il y a eu tous les événements pénibles pour tout le monde, mais surtout pour les juifs en Russie, les pogroms, une vague de pogroms assez sévère, c'est-à-dire d'assaut contre les communautés juives en 1903, et par la suite, lui-même, il a failli être attrapé par un pogrom à Kiev. Il a fallu qu'il a par hasard pu se réfugier quelque part alors que les hordes pogromistes étaient déchaînées dans les rues et il aurait pu être tué ou frappé. Et les événements révolutionnaires de 1905 qui se sont soldés par une énorme déception, il y a eu les violences révolutionnaires et leur répression, et la situation économique générale et la sienne en particulier en tant qu'écrivain ne s'améliorait pas du tout, c'était le contraire. Donc il y a eu tous ces facteurs qui l'ont poussé à tenter sa chance en Amérique.
Parle énormément d'épisodes politiques, toujours de manière extrêmement satirique. Il parle du sionisme, il y a des pages absolument cocasses sur les congrès sionistes de Bâle, sur les sionistes de Vienne, dans La peste soit de l'Amérique. À un moment donné, il dit, donc c'est Menachem Mendel écrit ses lettres, il dit « Je suis arrivé en Palestine ». Enfin, pas en Palestine, je suis à Vienne, mais enfin j'ai l'impression d'être en Palestine, parce qu'il ne croise que des sionistes qui se projettent en Palestine.
Lettre de Menachem Mendel de Varsovie à sa femme Shaine Scheindel à Kasrilevke. À ma chère épouse, la sage et vertueuse dame Shaine Scheindel, longue vie, primo, je t'informe que je suis, grâce à Dieu, en bonne vie et santé. Plaise à Dieu que nous n'entendions jamais l'un de l'autre que d'excellentes nouvelles de bonheur, salut et réconfort pour tout Israël. Amen. Secondo, sache que me voici varsovien. Je suis à Varsovie, autrement dit. Comment cela se fait-il? Tu vas voir. Pur hasard. Par ma dernière lettre envoyée d'Amérique avec de l'argent, tu sais déjà tout, que j'en ai enduré là-bas, que j'ai traversé les sept cercles de l'enfer, que j'en ai vu toutes les couleurs, que j'ai travaillé comme un forçat, trimé comme un esclave. Après de longues et amères souffrances, je suis devenu un homme de plume. J'ai commencé à m'occuper d'écriture, et cela m'a réussi au plus haut point et a porté ses fruits. J'ai débuté modestement, mais j'ai peu à peu gravi tous les échelons. Pour commencer, je portais les gazettes, appelées là-bas paper, pour les vendre dans la rue. Après mûre réflexion, j'ai jeté un regard sur les paper pour voir ce qu'ils pouvaient bien y écrire pour que les gens se les arrachent comme des petits pains. Et j'ai compris au premier coup d'œil que ce n'était pas vraiment sorcier. Avant toute chose, il me fallut faire connaissance des rédacteurs en chef, appelés là-bas éditaires, et de leurs collaborateurs, les journalistes. Puis je me mis à observer la besogne elle-même pour voir comment ils fabriquent cette marchandise, et j'en conclus que j'avais bien été un âne jusque-là. J'avais cru que tout ce qu'ils impriment dans leurs papers, ils l'inventent de toutes pièces. Et en fait, qui que quoi ? Faribole. Il y a là un gaillard assis à une grande table, jonché de gazettes du monde entier, avec une paire de ciseaux à la main qui coupe comme un vrai tailleur. En face de lui est assis un jeune homme aux babines rouges, avec des ciseaux et un bouquin. J'aurais juré que c'était un livre connu. Il est plongé dans le livre et coupe avec de petits ciseaux, un feuillet par-ci, un feuillet par-là. Et voilà un bout de roman tout prêt pour demain. Hé hé, pensais-je. Il suffisait de le savoir. Quant au tour de main, je le connais mieux que toi. Je suis allée au marché, appelée là-bas Market, me suis offert tout un lot de marchandises, d'histoires de tout poil, et je me suis mis au travail à l'américaine. Faire de deux ou trois vieilles histoires une seule toute neuve, un micmac. Une embrouille au chapeau bien racoleur. En un mot, c'était pour moi un jeu d'enfant. J'ai rapidement travaillé pour trois papers en même temps, sous trois noms différents, comme il se doit. Coup du sort. Voilà que les écrivains juifs d'Amérique se mettent en grève. Voilà bien ma veine. Quand Menachem Mendel devient quelque peu écrivain, l'envie leur prend de faire grève.
Menachem Mendel, c'est un type qui vient d'un petit shtetl, d'une petite bourgade, où d'ailleurs sa femme est restée, et c'est pour ça
Nadia Deon Rothschild.
Que le livre est un effet de lettres qu'il échange avec sa femme, ce qui permet d'avoir deux voix différentes, celle de Menachem Mendel, la plus fréquente, et puis de temps en temps aussi une lettre écrite par la femme, qui témoigne des changements, alors que lui parcourt le vaste monde. Et elle témoigne aussi des changements qui s'opèrent à l'intérieur du shtetl traditionnel. Lui, il est parti de là parce qu'il faut vivre. Et de quoi vivre ? Ça, c'est la question principale. Et donc, il est toujours à la recherche d'un métier. Il a essayé, au début de ses aventures, de faire des affaires à la bourse d'Odessa. Ça ne lui a pas réussi, pas plus que ça n'a réussi à Sholem Aleichem, d'ailleurs, dans sa vie réelle. Il a essayé d'être marieur. Et là, on le voit dans le deuxième volume de ses aventures, il essaye d'être journaliste à Varsovie. Il est qualifié d'être de Luftmensch, c'est-à-dire un type qui n'a vraiment pas les pieds sur terre, qui est toujours dans ses châteaux en Espagne, et c'est peut-être par l'Espagne qu'on en vient à Don Quichotte, parce que il ne s'agit pas seulement pour lui de défendre son hypothétique gagne-pain, mais aussi d'être utile à tout son peuple. Et il prend fait et cause pour tous ceux qui sont opprimés, chassés, etc.
Et le Luftmensch, Sholem Aleichem ne l'a pas inventé. Toute cette littérature satirique dès le début du XIXe siècle visait aussi le Luftmensch, mais Sholem Aleichem le hisse à une autre hauteur. Ça devient un vrai rêveur. Et ça devient aussi un grain.
Yitzhak Niborski.
Les Juifs qui vont réussir. Parce qu'à force de se cogner la tête contre des réalités économiques qu'il ne comprend pas encore, Menachem Mendel, il partira aussi en Amérique. Et Menachem Mendel est finalement le type qui a compris le monde moderne et qui a compris ses tenants et ses aboutissants et qui a su trouver sa place dans ce monde. Donc, et même si c'est le Luftmensch, c'est un Luftmensch avec une autre largeur d'esprit et une autre perspective.
L'invention de cet archétype de la littérature yiddish qui est le Luftmensch, c'est-à-dire l'homme du vent, c'est l'expression finalement d'un corps qui vogue, poussé par les vents cruels de l'histoire et qui ne sait pas trop où se poser. Et l'humour est à la fois consolation, espoir, enfin tout ce qu'on sait qu'est l'humour, et particulièrement l'humour juif, et qui n'est pas dénué au demeurant de cruauté chez Sholem Aleichem, qui s'amuse quand même à épingler... Je dirais, pour parler dans des termes un peu plus modernes, mais qui existaient très clairement chez Sholem Aleichem, l'aspect névrotique, tel qu'on peut le trouver chez un Woody Allen, par exemple, l'aspect névrotique de cette impossibilité existentielle, Sholem Aleichem en joue pleinement.
Reise mit Ihrer Herde schon gehört.
Nur hat die Jost gehört und lässt es dann sagen.
Das heißt aber, der Mann hört sich und es war Puter.
Il y a une foule de personnages, on ne peut pas généraliser, mais disons, il y a un certain nombre de personnages que moi je caractériserais comme mentalement hyperactifs. Des gens qui pensent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui... Ça ne veut pas dire intellectuel, non, je ne parle pas du tout, ça peut être une vendeuse de poules. Et non, je veux dire, dans leur tête, ça ne se repose pas. Il y a une énergie, il y a parfois une agressivité, parfois une créativité, mais il y a tout le temps une dynamique, une force, et c'est ça. Et qu'est-ce qui se traduit par la verve, qui se traduit par un langage très créatif et très fort, et en même temps populaire. C'est l'une des caractéristiques des nombreux héros. Et c'est pour cela que son humour n'est pas un humour de situation comique. Ce n'est pas l'héros qui glisse sur la banane. Même Menachem Mendel, qui est mille fois défait dans les affaires à la bourse, ce n'est pas le ridicule de sa défaite qui fait rire. C'est sa manière de raconter.
C'est un acte de résistance, quoi, en quelque sorte, spirituel. Sholem Aleichem reste fidèle à sa manière très particulière de mettre ça à travers le filtre de l'humour, de l'esprit. La position ontologique, c'est que quand le malheur vous accable, il faut, de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc il faut essayer d'en tirer le côté le plus positif possible. C'est beaucoup l'histoire de la passivité, et il y a une sorte de surcompensation chez Sholem Aleichem, de l'esprit, de la lettre, du verbe, du texte. En cela, il est parfaitement fidèle à l'histoire du peuple juif, qui c'est pas pour rien qu'on appelle le peuple juif le peuple du livre. Simplement, Sholem Aleichem sécularise cette sacralité de l'esprit, de l'étude et du livre. Il requalifie sur un mode profane le rapport du judaïsme au texte.
Alors on peut dire que Sholem Aleichem, c'est le contraire de Céline. C'est-à-dire qu'il révolutionne la littérature en écrivant simplement.
Jean-Claude Grimbert.
Mais avec un humour, une tendresse, une ironie. Et voilà, c'est un être humain qui s'adresse aux autres êtres humains pour les rendre, pas forcément meilleurs, mais pour leur ôter un poids. C'est-à-dire qu'il sait que le monde est ce qu'il est. Il connaît la douleur, il connaît la monstruosité. Il veut rendre l'air plus léger. Et les gens se le lisaient. Moi, je me souviens que ma belle-mère, au lit, lisait à son mari des nouvelles de Sholem Aleichem. Avant de s'endormir, il riait. Et voilà. C'est-à-dire que c'était écrire pour permettre aux gens de mieux respirer.
Et prenons une autre sorte de personnage dont je n'ai pas parlé, la bonne femme juive. C'est souvent une femme aigrie, parce que sa vie est encore plus dure que celle de l'homme, et la pauvreté en plus. Alors, la bonne femme juive a comme caractéristique distinctive de maudire. Elle profère des malédictions comme un autre respire. D'autres écrivains avant Sholem Aleichem avaient déjà, ou en même temps que lui, présenté ce type de femme. Mais lui, il élève le langage particulier de la bonne femme juive. Et il en fait une vraie création artistique. Ses malédictions ont une rondeur, une complexité, un élan complètement différent. Il montre à quel point elle est porteuse de la seule goutte des logiques qu'il y a dans la vie juive traditionnelle, de la seule goutte des véritables talents pour s'affronter aux problèmes, pour s'affronter aux situations.
Shaine Scheindel de Kaslevke à son époux Menachem Mendel d'Odessa. À mon cher époux, le riche, renommé et sage Menachem Mendel, que sa lumière brille. Primo, je t'informe que nous sommes tous, grâce à Dieu, en bonne santé. Plaise à Dieu que nous recevions de semblables nouvelles de toi et puissent-elles être toujours aussi bonnes. Secondo, je t'écris pour te dire que je pense que tu es vraiment fou. Je veux bien être pendu si je comprends quelque chose à la ville d'Odessa et si j'ai la moindre idée de ce que signifient tes élucubrations sur tes baisses et hausses. Le diable seul s'y reconnaît. Tu fais valser tes billets de 50 roubles comme si pour toi l'argent n'était rien, moins que rien. Même si on me coupait la tête, je ne comprendrais jamais ce que c'est que cette marchandise qu'on ne voit pas. Un chat dans un sac ? Écoute, Mendel, cela ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas été habituée chez mon père à ce genre de profession qui n'est que du vent. Et puisse Dieu m'en préserver encore dans l'avenir. Bien que tu écrives que tu peux vendre comme des petits pains les traites de l'oncle Ménaché, je te dis, moi, qu'en ne te croyant pas, on ne me traitera pas non plus de mécréante. Comme dit maman, ne crois pas avant d'avoir palpé. Sais-tu, Mendel, écoute ta femme, crache sur Odessa et rentre plutôt à la maison de Kasrilevke. Tu as 1500 roubles. Papa nous donne un logement, il y a des boutiques à louer, que te faut-il de plus ? Pourquoi dois-je être la risée du pays et entendre nos ennemis murmurer que tu es partie à Odessa en me laissant tomber ? Je ne céderai pas un caillou de Kasrilevke pour tout ton Odessa, avec ses grands immeubles et ses escaliers de fer où il faut grimper comme des fous. Mais que t'importe ce qui se passe chez nous ? Tu ne demandes même rien au sujet de tes enfants. Comme dit maman, loin des yeux, loin du cœur. Si seulement il te venait un abcès aussi gros qu'elle a raison. En attendant, porte-toi bien et sois heureux, comme te le souhaite ta très fidèle épouse, Shine Scheindel.
Ça, c'est le roman autobiographique Funami Yarid du marché.
Agvile Grigora Visiute.
Là, ça, c'est le volume 14. Blanche in der Stern, c'est l'un de ses premiers romans sur une troupe itinérante d'acteurs juifs. Volume 13, les écrits dramatiques et les comédies.
Ça, c'est le théâtre.
Oui, ici, il y a la pièce du théâtre de Sholem Aleichem qui est le plus connu, le gros lot sur un pauvre juif qui gagne le gros lot dans une loterie. Écoute comment ça transforme toute sa vie. Ah non, ça c'est les monologues.
Il a mis, par exemple, 25 ans à compléter le texte de Thévié le laitier. Menachem Mendel aussi s'étale sur plusieurs années. Mais il a commencé par des romans plus longs, plus facture classique, qui finalement n'étaient peut-être pas son genre, comme le lui avait dit l'autre grand écrivain yiddish, Mendel et Moecher Sorim. Et il a porté à un point de quasi-perfection le genre du monologue. C'est une de ses formes favorites. Parce qu'il arrive à donner à chaque personnage justement sa spécificité en peu de traits. Comme un dessin, on verrait, je sais pas, peut-être un daumier, vous voyez, quelque chose d'aigu, quelque chose de rapide comme ça, qui permet de reconnaître le personnage immédiatement.
La bibliothèque de la Maison de la Culture Yiddish, il y a
Gilles Rosier.
6 ou 7 fois ses œuvres complètes qui ont été publiées à toutes sortes d'époques, aux États-Unis, en Russie, en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, en Union soviétique, en Israël, en Amérique du Sud, à Buenos Aires. Et vous avez un nombre de livres publiés, que ce soit sous forme de fascicules. Au début du siècle, on publiait ces nouvelles sous forme de fascicules, il y en a des centaines. Il n'y a pas un journal dans le monde qui n'a pas publié des nouvelles ou des feuilletons de Sholem Aleichem, je pense.
Un journal yiddish,
bien sûr. De sorte que quand il arrive aux États-Unis, on raconte le fait qu'il aurait rencontré Mark Twain, le grand écrivain populaire américain, et que Mark Twain lui aurait dit « On m'a dit que vous étiez le Mark Twain Yiddish », et il lui aurait répondu « On m'a dit que vous étiez le Sholem Aleichem américain ». Qu'elle soit vraie ou pas, c'est exactement ça. C'est un écrivain extrêmement populaire de son temps. Et après son temps aussi, puisque dans l'éducation juive, l'éducation juive laïque a commencé dans les années 1915-1920. Il y a d'abord un certain nombre d'écoles yiddish qui se sont appelées Sholem Aleichem. L'enseignement de la littérature et de la langue yiddish était partiellement sur la base de textes de Sholem Aleichem. Pas seulement lui, de tous les écrivains yiddish, mais on ne pouvait pas envisager un enseignement de la langue et de la littérature yiddish sans passer par Sholem Aleichem.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1917, au moment de la révolution d'octobre, donc la zone de résidence va être abolie. Les Juifs vont obtenir des droits de citoyens. Et là, il y aura un moment important où l'hébreu va être rejeté, condamné, éradiqué comme étant la langue du passé, la langue de la tradition rabbinique, la langue vraiment de tout ce qu'il y avait de plus conservateur, disons, dans la vie juive. Mais par contre, le yiddish va être considéré comme la langue essentielle du peuple juif, des masses juives. Et donc, il va y avoir des instituts, il va y avoir des revues, il va y avoir un théâtre juif à Moscou, où notamment les pièces de Sholem Aleichem et ses récits aussi vont être réédités. Et il va devenir une sorte de héros national juif de la culture d'Union soviétique, justement comme un auteur emblématique, bien sûr, entre guillemets, marxisé, comme... un auteur juif prolétarien qui a bien rendu compte des souffrances, des douleurs et de la pauvreté des masses juives à son époque.
Il y a dans ses écrits une telle sensibilité, une telle sympathie pour les juifs des peuples, pour les artisans, pour les gens pauvres, que finalement, ça n'a pas été difficile de montrer Sholem Aleichem sous les jours d'un écrivain avec une grande sensibilité sociale. Il l'était. Mon propre père s'est presque fait virer de l'usine où il travaillait à Buenos Aires lorsque j'étais petit. Et c'était une usine où les propriétaires aussi parlaient yiddish. Et mon père lui a cité un jour, pendant une discussion, certainement pour des questions de salaire, il lui a cité Sholem Aleichem qui dit « Brennen sollen alle Balebatim, puissent tous les patrons brûler ». Oui, alors, c'est une citation de Sholem Aleichem, mais ce n'est pas anodin. Mais ceci dit, il n'était pas engagé dans les idées politiques, dans les mouvements politiques.
Ça doit paraître absurde, non? Mais dans notre petit village d'Anatievka, on peut dire que chacun d'entre nous est un violiniste sur le toit qui essaie de jouer sur son crin-crin un petit air simple, agréable, sans se casser la figure, et c'est pas facile. Vous allez peut-être me demander pourquoi nous restons perchés comme ça, là-haut, dans une position aussi dangereuse. Nous y restons parce que nous sommes chez nous, et qu'Anatievka est la terre où nous sommes nés. Comment gardons-nous notre équilibre? Je vais vous le dire en un seul mot. Tradition.
Oui, toute une nostalgie par rapport au monde juif d'Europe orientale engloutie, même si Sholem Aleichem, c'est pas que cet espace géographique. Mais le violon sur le toit, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le violon sur toit, c'est une vision idyllique de la bourgade juive d'Ukraine. Et on voit chez le lecteur contemporain, qu'il soit d'origine juive ou pas, quand il est d'origine juive, il se dit « Ah, c'était formidable le monde du Shtetl !»
Surtout après la destruction des Juifs d'Europe, ce qui va se passer, c'est qu'on va totalement pervertir cet héritage du Yiddish. C'est-à-dire que le Yiddish va tout à coup être figé dans une sorte d'image d'épinal, type Un violon sur le toit, la comédie musicale, c'est-à-dire quelque chose de complètement édulcoré, d'américanisé, qui n'a presque plus rien à voir avec ce qu'était réellement cette culture, ce qu'était cette langue, ce qu'elle pouvait comporter de complexité, de subtilité, d'amertume. Enfin bref, on est très très loin. Pourquoi ? Parce que traumatisme historique, parce que non-transmission, et qu'il fallait sans doute par nostalgie ou par je ne sais quel mécanisme psychique figer cette culture dans une sorte d'atemporalité idéalisée faite de provincialisme, de naïveté, de simplicité. Or, l'effervescence de la culture yiddish, ça a été tout sauf ça. Ça a été une formidable explosion, un élan vers le modernisme, un élan vers l'univers profane. Enfin, ça a été extraordinaire.
Je pense que ça a commencé lorsque j'avais 8 ans. Et mon père, qui était né en Galicie, en Pologne, dans un petit shtetl, un petit village juif, est venu et m'a donné un livre. Il m'a dit, prends-le, David. C'est comme ça que c'était là-bas.
David Grossman.
Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais il y avait un certain sourire sur son visage que je n'oublierai jamais, comme si mon père était redevenu enfant soudain. Et c'était la première fois que, véritablement, il m'a donné quelque chose de son enfance. C'est ce que j'ai ressenti. Et c'était un livre de Shulam Aleichem. J'ai commencé à le lire. Je ne pouvais pas le comprendre. C'était en hébreu, c'était un livre traduit, donc en hébreu. Il y avait quelque chose d'archaïque, de mystérieux. Et pour moi, c'était quelque chose comme pénétrer un monde nouveau, un monde fascinant. Comme pour un enfant aujourd'hui, d'entrer dans le monde d'Harry Potter. Je ne connaissais rien de ce monde du shtetl, de ce qu'était un marieur, une marieuse, de ce qu'était un prêtre, de ce qu'était un non-juif. Jusqu'à l'âge de 8 ans, je ne savais pas qu'il y avait tellement de non-juifs dans le monde. Et j'ai commencé à lire ce livre, et j'étais immergé dans les histoires de Shalom Aleichem. Et je sentais que je recréais pour moi cette enclave d'existence juive au sein de la diaspora. Et graduellement, entre 8 et 9 ans, j'ai lu tous les écrits de Shalom Aleichem qui avaient été traduits en hébreu. J'étais certain que la réalité du shtetl juif existait toujours. Et je me souviens très clairement, la première fois que j'ai découvert que cette réalité n'existait plus, que c'était, je m'en suis rendu compte pendant le jour anniversaire de la Shoah, de l'Holocauste. Soudain, c'est devenu, mais ce sont mes gens à moi. C'était Tevier, le violon sur le toit, Stempenyu et Lili, et tous les personnages de Shalom Aleichem. Et j'étais choqué. C'était la première fois que la littérature m'avait touché d'une telle façon personnelle et concrète.
Is geworden sehr freilich, Eili Meilech. O teruge tu Navdule, mit dem Schames Reb Navdule, und hat geschickt nach die Fiedlech die zwei.
Merci à Agvile Grigoravisiuté, Jean-Claude Grimbert, Jacques Mandelbaum, Jean Baumgarten, Yitzhak Niborski, Gilles Rosier et Nadia Dehan-Rothschild. Texte de Sholem Aleichem, lu par Sarah Chomet. Merci également à la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, à Natalia Krinika, Isabelle Pleskov et David Unger. David Grossman était traduit par Michel Zlotowski. Documentation Alina, Gwen Michel. Prise de son, Marc Garven. Mixage, Alain Joubert. Sholem Aleichem, le Luftmensch, un documentaire de Mathilde Wagman, réalisé par Ghislaine David.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcasts et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec un pianiste génial, excentrique et ombrageux, Glenn Gould. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.